France Inter. Les admirations littéraires de
François Sureau. Bonsoir. Nous allons passer cette demi-heure en compagnie de Jean Giono. Son œuvre est un massif que l'on aborde en choisissant la face. Il y a bien sûr la face provençale, colline, regain, bataille dans la montagne. Il y a la face pacifiste, directement inspirée par l'épreuve de la Grande Guerre, le Grand Troupeau. Il y a la face critique et morale du Pour saluer Melville, ou bien de Cœur, Passion, Caractère, ou de l'Iris de Suse. Et puis bien sûr la face aventureuse et rapide du Hussard sur le toit, des récits de la demi-brigade, ou d'un roi sans divertissement. Au départ, au soubassement de ce massif, il y a la littérature de l'Antiquité, dont cet autodidacte a vécu toute sa vie et à laquelle il a rendu hommage dans Naissance de l'Odyssée. Cet influx, l'influx de l'Antiquité, le fait échapper au régionalisme à quoi le monde français des lettres l'a souvent réduit, alors que la critique anglaise ou américaine s'est moins trompée sur son cas.
Jean Giono.
Lorsque j'allais me promener dans la colline, j'y allais à la suite, et je dis bien à la suite, comme traîné par eux, à la suite de souvenirs de mes lectures. Lorsque pendant la semaine et pendant tout le temps de mon travail, j'avais lu l'Odyssée. Lorsque je marchais dans un verger d'olivier, Pan était là, Apollon surgissait des herbes. Nausicaa était cachée dans un chemin en train de remonter son linge des lavoirs. Et Ulysse était peut-être dans ses petits villages posés sur le sommet des collines, en train de manger chez Alkinoos, n'est-ce pas? Tout ça a été mêlé. Je ne crois pas qu'un jour j'ai pu me promener dans un manosque qui était manosque. C'était un manosque qui était à la fois tout ce qu'on pouvait imaginer.
Né à Manosque en 1895, Jean Giono est mort en 1970, mais il n'a pas cessé d'en partir, ou d'y chercher quelque chose d'analogue à ce que William Faulkner a cherché dans le Sud, un témoignage à la fois humain, naturel et métaphysique, d'une métaphysique que l'absence de Dieu rend à la fois réconfortante et cruelle. Son père, un cordonnier anarchiste, lui a légué une méfiance bienvenue à l'égard des institutions, comme on le voit dans son extraordinaire préface aux œuvres de Machiavel en Pléiade, ou bien dans le livre qu'il a consacré au désastre de Pavie.
Par décret du président de la République, la mobilisation des armées de terre et de mer est ordonnée, ainsi que la réquisition des animaux, voitures et harnais nécessaires au complément de ces armées. C'est la guerre, les gars.
La Grande Guerre n'arrangera rien. Mobilisé en 1914, versé dans l'infanterie, il participe aux batailles les plus dures, l'Artois, la Champagne, Verdun et la Somme. Il en prend une horreur imprescriptible de la guerre, qui l'inclinera plus tard au pacifisme intégral. Ce pacifisme le rendra un court moment communiste dans l'entre-deux-guerres, avant qu'il ne devienne franchement défaitiste, ce qui motivera son arrestation en septembre 1939. Il avait écrit dans les cahiers du Contadour cette espèce de phalanstère rural dont l'idéologie devait plus tard se trouver assez bien accordée au retour à la terre prôné par Vichy. Je cite « Je préfère être un Allemand vivant qu'un Français mort ». Il aurait pu s'en tenir là, mais s'est laissé aller à pire, sans pour autant adhérer comme un Drieu ou un Bonnard ou même un Chardonne à la doctrine de l'occupant nazi. Il écrit tout de même dans « Aujourd'hui » est mis en valeur par Signal, une sorte de Paris Match des troupes d'occupation, et puis publie en 1944 Deux Cavaliers de l'Orage dans La Gerbe, le journal collaborateur d'Alphonse de Chateaubriand, et collabore à Radio Paris. Il qualifie les résistants d'assassins et répond à Vladimir Rabinovitch qui veut l'intéresser au sort des Juifs, je cite « Je me fous des Juifs comme de ma première culotte, il y a mieux à faire sur Terre qu'à se ruper des Juifs ». Cela n'en fait pas un Céline, mais on a vu écrivain mieux inspiré. Il est vrai que la pensée n'était pas le fort de Jean Giono, non qu'il fût par ailleurs dépourvu de sensibilité. Plusieurs témoignages indiquent qu'il a caché des juifs et des réfractaires, ou des communistes, pendant la guerre, y compris, paraît-il, la femme de Max Ernst. À la fin, il est évidemment couvert d'opprobre à la Libération, incarcéré en 1945, puis placé sur la liste noire du Comité national des écrivains.
Buvez ça ! N'ayez pas peur, je suis médecin. Allez, buvez !
Vous étiez là, dans le village ?
Oui.
Il y a des malades ?
Non, des morts, il y a des morts partout.
Vous les avez touchés ?
Touchés, non, j'ai voulu les...
Restez là !
Mais, qu'est-ce que je vous dis qu'ils sont tous morts ?
C'est partout pareil.
Et quoi, qu'est-ce qui est pareil ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
C'est le choléra, mon vieux, le barbus asiatique ! Vous tombez de la lune ou quoi ?
Le plus beau débarquement de choléra qu'on ait jamais vu !
On a pu dire que la description terrible qu'il fait du choléra à Manosque trouvait son origine dans le désir qu'il éprouvait de se venger de la manière dont sa ville l'avait mis au banc au moment de la libération. Critique pour critique, je préfère celle de Philippe Muret qui voit dans le choléra l'image des idées libérales progressant dans l'Europe de 1830. Quoi qu'il en soit, ce sont ces errements qui précipitent chez Giono l'avènement de sa seconde manière, celle du roi sans divertissement ou du hussard sur le toit, où l'idéologie disparaît, où rien d'autre n'existe plus que l'aventure et les jeux énigmatiques de la destinée. Cette manière lui vaut une consécration universelle et rejettera le reste dans l'oubli, y compris les péripéties les plus discutables de sa vie. Les caractères, comme dans « haine monde » et autres caractères, ou dans « cœur, passion, caractère », et jusque dans son dernier livre, « L'Iris de Suse » l'ont emporté, ce qui suffit à notre bonheur de lecteur.
Je me mets toujours au travail le matin, devant ma page, sans savoir du tout ce qui va se passer. Rien n'est préparé, rien n'est prêt. Je m'arrête le soir à un moment où je ne sais pas ce qui va se passer. Car je me raconte en premier lieu le livre à moi-même. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est de me raconter ce livre. Plus que d'écrire un livre pour écrire un livre, écrire un livre pour écrire un livre, on peut maintenant, à mon âge, se passer d'écrire un livre. Mais le plaisir que je prends à écrire un livre dépasse tous les autres plaisirs.
Je vais commencer ce voyage en compagnie de Giono par un texte magnifique qui est un hommage rendu à l'écrivain américain Herman Melville, l'auteur de Moby Dick, et qui s'appelle « Pour saluer Melville ». La traduction de Moby Dick de Herman Melville, qui paraît d'autre part commencée le 16 novembre 1936, a été achevée le 10 décembre 1939. Mais bien avant d'entreprendre ce travail, pendant 5 ou 6 ans au moins, ce livre a été mon compagnon étranger. Je l'emportais régulièrement avec moi, dans mes courses, à travers les collines. Ainsi, au moment même où souvent j'abordais ces grandes solitudes ondulées comme la mer, mais immobiles, il me suffisait de m'asseoir, le dos contre le tronc d'un pin, de sortir de ma poche ce livre qui déjà clapotait, pour sentir se gonfler sous moi et autour la vie multiple des mers. Combien de fois, au-dessus de ma tête, n'ai-je pas entendu siffler les cordages, la terre s'émouvoir sous mes pieds comme la planche d'une baleinière, le tronc du pin gémir et se balancer contre mon dos comme un mât, lourde voile ventelante. Levant les yeux de la page, il m'a souvent semblé que Moby Dick soufflait là-bas devant, au-delà de l'écume des oliviers, dans le bouillonnement des grands chênes. Mais, à l'heure où le soir approfondit nos espaces intérieurs, cette poursuite dans laquelle Melville m'entraînait devenait plus générale, en même temps que plus personnelle. Le jet imaginaire fusant au milieu des collines pouvait retomber, et les eaux illusoires se retirant de mon rêve pouvaient laisser à sec les hautes terres qui me portaient. Il y a, au milieu même de la paix, et par conséquent au milieu même de la guerre, de formidables combats dans lesquels on est seul engagé et dont le tumulte est silence pour le reste du monde. On n'a plus besoin d'océans terrestres et de monstres valables pour tous, on a ses propres océans et ses monstres personnels. De terribles mutilations intérieures irriteront éternellement les hommes contre les dieux, et la chasse qu'ils font à la gloire divine ne se fait jamais à main nue, quoi qu'on dise. Quand le soir me laissait seul, je comprenais mieux l'âme de ce héros pourpre qui commande tout le livre. Il marchait avec moi sur les chemins du retour. Je n'avais toujours que quelques pas à faire pour le rejoindre, et dès la nuit noire tombée, au fond des ténèbres, le devenir. Comme si, d'un pas plus long, je l'avais atteint et que je sois entré dans sa peau, mon corps se couvrant aussitôt de son corps comme d'un grand manteau, portant son cœur à la place du mien, traînant lourdement moi aussi mes blessures sur les remous d'une énorme bête de l'abîme. L'homme a toujours le désir de quelque monstrueux objet, et sa vie n'a de valeur que s'il la soumet entièrement à cette poursuite. Souvent, il n'a besoin ni d'apparat ni d'appareil. Il semble être sagement enfermé dans le travail de son jardin. Mais depuis longtemps, il a intérieurement appareillé pour la dangereuse croisière de ses rêves. Nul ne sait qu'il est parti. Il semble d'ailleurs être là, mais il est loin. Il hante des mers interdites. Ce regard qu'il a eu tout à l'heure, que vous avez vu, qui manifestement ne pouvait servir à rien dans ce monde-ci, traversant la matière des choses sans s'arrêter, c'est qu'il partait d'une vigie de grande une et qu'il était fait pour scruter des espaces extraordinaires. Tel est le secret des vies qui parfois nous semblent familières, souvent le secret de notre propre vie. Le monde n'en connaît jamais rien, parfois, que la faim, l'épouvantable blancheur d'un naufrage inexplicable qui fleurit soudain le ciel de giclements et d'écume. Mais même dans la plupart des cas, tout se passe dans de si vastes étendues, avec de si énormes monstres, qu'il ne reste ni trace ni survivant. Et le grand linceul de la mer se roule et se déroule comme il faisait il y a 5000 ans. Le plaisir de la lecture des bons auteurs, c'est que très souvent, les bons auteurs renvoient à d'autres auteurs qu'eux-mêmes. Et comme une sorte d'interlude après vous avoir lu ce texte, j'aimerais bien vous en citer un autre qui n'est pas Giono et auquel le texte du « Pour saluer Melville » m'a très souvent fait penser. Il s'agit du magnifique récit que Joseph Conrad a donné de son premier embarquement dans « Jeunesse ». Et quant à moi, il y avait en outre ma jeunesse pour me rendre patient. J'avais tout l'Orient devant moi et toute la vie, et la pensée que c'était sur ce navire que j'avais subi mon épreuve et que je m'en étais tiré à mon honneur. Et je songeais aux hommes d'autrefois qui, bien des siècles auparavant, avaient eux aussi suivi cette même route sur des navires qui ne naviguaient pas mieux pour aller au pays des palmes et des épices et des sables jaunes et des peuplades brunes que gouvernaient des rois plus cruels que Néron le Romain et plus magnifiques que Salomon le Juif. La vieille barque se traînait, alourdie par l'âge et le fardeau de son chargement, tandis que moi je vivais la vie de la jeunesse, dans l'ignorance et dans l'espoir. Elle se traîna ainsi, pendant une interminable procession de jours, et sa dorure neuve renvoyait ses reflets au soleil couchant et semblait clamer sur la mer assombrie les mots peints sur sa poupe « Judée, Londres, marche ou meurt ».
Entrez, capitaine.
Déjà là. Le piéton avait l'air de dire que ça pressait.
C'est évidemment pressé. Asseyez-vous. Voici les faits. Vous connaissez Prébois. À une demi-lieue de ce côté, vers la forêt, une cinquantaine d'habitants en train de mijoter sous la neige. Nous sommes le 17 décembre. Il y a donc 5 jours. Une jeune femme a disparu du village.
Partie ?
Disparue. Ça n'est pas la même chose. Escamotée. Elle est là. Elle n'y est plus. À ses muscades.
Et maintenant, je voudrais vous lire un texte tiré de ce livre magnifique qui raconte les aventures de Langlois, le lieutenant de Louvetterie, qu'on retrouve aussi dans les récits de la demi-brigade. Et ce livre qui s'appelle « Un roi sans divertissement » et dont vous savez que le titre a été inspiré à Giono par une phrase de Pascal « Un roi sans divertissement » est un homme plein de misère. Vous m'ennuyez à la fin, dit-elle. Je vous dis que c'est tout. Si je vous dis que c'est tout, c'est que c'est tout, nom de nom. Il m'a dit donne. J'ai donné loi. Il l'a tenue par les pattes, et bien il l'a regardée saigner dans la neige. Quand elle a eu saigné un moment, il me l'a rendue. Il m'a dit tiens, la voilà, et va-t'en. Et je suis rentré avec loi. Et je me suis dit, il veut sans doute que tu la plumes. Alors, je me suis mis à la plumer. Quand elle était plumée, j'ai regardé, il était toujours au même endroit, planté. Il regardait à ses pieds le sang de l'oie. J'y ai dit « Les plumer, monsieur Langlois ». Il ne m'a pas répondu et n'a pas bougé. Je me suis dit « Il n'est pas sourd, il t'a entendu. Quand il la voudra, il viendra la chercher. » Et j'ai fait ma soupe. Est venu 5 heures. La nuit tombait. Je sors prendre du bois, il était toujours là, au même endroit. J'y ai de nouveau dit « Les plumer, monsieur Langlois, vous pouvez la prendre. » Il n'a pas bougé. Alors je suis rentré chercher l'oie pour la lui porter, mais quand je suis sorti, il était parti. Eh bien, voilà ce qu'il dut faire. Il remonta chez lui et il tint le coup jusqu'après la soupe. Il attendit que Saucisse ait pris son tricot d'attente et que Delphine ait posé ses mains sur ses genoux. Il ouvrit comme d'habitude la boîte de cigares et il sortit pour fumer. Seulement, ce soir-là, il ne fumait pas un cigare. Il fumait une cartouche de dynamite. Ce que Delphine et Saucisse regardèrent comme d'habitude, la petite braise, le petit fanal de voiture, c'était le grésillement de la mèche, et il y eut, au fond du jardin, l'énorme éclaboussement d'or qui éclaira la nuit pendant une seconde, c'était la tête de Langlois qui prenait enfin les dimensions de l'univers. Qui a dit « Un roi sans divertissement est un homme plein de misère ». Et voici à présent un extrait des récits de la demi-brigade. C'est une scène qui se passe le jour de Noël. J'aurais pu passer cette nuit de Noël comme tout le monde, En tout cas comme un célibataire qui a du feu chez lui, mais j'eus ce soir-là des démangeaisons dans la poignée de mon sabre. Depuis l'entrée de l'hiver, la bande du beau François avait fait parler d'elle. Je lui attribuais 3 attentats contre les voitures publiques sur la grande route d'Aix à Saint-Maximin, dans la traversée des montagnes. Je ne commande que la demi-brigade de Saint-Pons, mais je n'aime pas qu'on tue des chevaux, je n'aime pas qu'on tue des cochers, et finalement je n'aime pas qu'on tue des femmes. J'ai l'air de ne rien aimer, si, j'aime rendre prompte justice. Dès 4 heures de l'après-midi, je sortis de mon coffre ma soubre-veste polonaise et ma toque de fourrure. J'attendis mon ordonnance. Il vint peu après recharger mon poêle. Il fit semblant de ne pas voir sur le lit mon uniforme d'aventure. Comme chaque fois avant l'action, quand je m'engage seul, j'étais très gai. « Qu'est-ce que tu regardes ? Il y a trop longtemps que je passe à côté de la rigolade pour regarder encore quoi que ce soit, dit-il. Si j'avais femme et enfant comme toi, je n'irais pas courir la prétentaine, surtout cette nuit. » La seule fois où j'ai mis mes bottes dans la cheminée, mon capitaine, il n'y avait pas de cheminée. Et j'ai bien aimé ce que j'ai trouvé dedans le matin d'après. C'était quoi ? C'était moi, en chair et en os et frais comme l'œil, après pas mal de barouf, mais vous le savez, vous y étiez, du côté de Dresde, dans le petit bois. Il fourgonna dans le poêle un peu plus longtemps que nécessaire. Je ne répliquai pas et il sortit. Je le suivis du regard pendant qu'il traversait la cour vers le poste de garde. Il s'en allait à regret. C'était un vieux compagnon d'armes. Nous avions fait les 400 coups ensemble, mais ce 401e, je voulais le faire seul. Je comprenais bien le plaisir qu'on a à se retrouver dans ses bottes après le barouf, puisque c'était le petit Noël que je me préparais, mais ce copain-là, marié, père de famille, je n'avais plus le droit. Et il n'avait plus le droit. Le droit de quoi, d'ailleurs ? Je pris 2 pistolets et mon sabre, pistolet pour l'encas et sabre pour le plaisir. Il n'y avait qu'à chercher 2 ou 3 têtes à mettre devant le sabre. J'allais prendre à l'écurie non pas un cheval mais un bourrin. Je n'avais besoin ni de vélocité ni d'élégance, j'avais simplement besoin d'un fauteuil ambulant. Je pris Jupiter. C'est le seul cheval de la demi-brigade totalement dépourvu d'imagination. Il se laissa habiller sans manifester la moindre émotion malgré le vent qui ébranlait les portes et les lucarnes. Ma soubre veste polonaise est en poil de chat. Elle descend assez bas pour bien me protéger les rognons, elle colle au corps et c'est le vêtement idéal pour le temps qu'il faisait et les gestes que je voulais faire. Ample aux entournures et serré sur le cœur. Ma toque est en poil de loup, enfin c'est ce qu'on m'a dit à Villeneuve, j'ai la tête assez froide pour lui faire porter du loup. La caserne est à 1/2 lieue de la Croix de Malte. Je pris par les champs. C'était le crépuscule le plus clair du monde. Le vent était de norrois et d'une violence royale. Un mistral bien établi dans son 7e jour, glacé, tranchant, et dont les coups allumaient dans mes yeux des lueurs vermeilles. Le ciel était vert, d'un bord à l'autre, les premières étoiles s'allumaient dans un air si pur qu'elles semblaient nouvelles.
Je suis entré dans la guerre de 1914 à 19 ans et j'ai fait pendant 5 ans le fantassin de 2e classe. Elle a été une suite d'expériences tragiques, d'un tragique infini, et j'ai vu souffrir d'une façon abominable, j'ai souffert moi-même d'une façon abominable, j'y ai perdu mes amis. Ce sont des expériences qui marquent.
Les admirations littéraires de François Sureau.
Mon amour, ma bien-aimée, me voici trop loin de toi. Comment survivre éloigné de ton cœur et de tes bras?
De mon cœur et de mes bras, tiens, je l'avais oublié, cette lettre et qui, ma foi, peut me l'avoir envoyée.
Tu savais quel ennui, loin de nos jeux amoureux.
Est-ce André ou est-ce Henri? Est-ce Paul aux si beaux yeux?
Rien ne distrait la folie qui m'entoure, mais rien ne peut détourner mon cœur épris.
Oh non, ça ne peut être lui.
Je reviendrai, sois-en sûr.
Vrai, c'est la première fois que je vois cette écriture.
Ton portrait posé sur moi me protège et me rassure.
Cette lettre entre mes doigts serait-elle une posture ?
heures, ces jours, ces secondes qui nous tiennent séparés.
J'ai beau chercher dans la ronde de mes amoureux passés, dans quelle amnésie profonde cet amant-là s'est noyé. Qui ne résiste au temps.
Un baiser sur ta prunelle, sur ta bouche, tout autant.
Rien qui ne résiste au temps, et la mémoire est cruelle.
Mais adieu, ma vie, mon cœur, il faut bien que je m'en aille. On m'appelle, il est 6 heures. Que vaille, à moins que ton artilleur n'ait pour seule funéraille que l'étranger et la peur, le vacarme et la mitraille.
Certitude affirmée d'une simple signature.
Mon amour, si d'aventure au front je devais tomber, je voudrais que tu me jures de ne jamais.
Pendant la guerre, ça a été pour moi une vacance totale de l'esprit. Je n'ai pas pensé à exprimer. Je pensais à sauver ma peau. Ça ne pouvait pas aller ensemble, vous comprenez ? C'était pas pareil. C'était un gros métier de sauver sa peau. On ne pouvait pas avoir un autre métier à côté, vous comprenez ? C'était trop important, ça. Je n'ai pas écrit une seule ligne pendant toute la guerre.
François Sureau lit des textes de Jean Giono.
Vous l'avez dit, la grande épreuve de la vie de Giono était sa mobilisation. Les 4 années qu'il a passées comme soldat de l'infanterie au 140e régiment d'infanterie. Et à certains égards, Le Grand Troupeau, qui est le grand livre qu'il a écrit sur cette époque, qui est un livre absolument tragique, rappelle ceux de 14 de Genevoix, parce qu'il est véritablement écrit des profondeurs de la souffrance du soldat de l'infanterie. Et j'ai choisi un texte tiré du Grand Troupeau. On arrivait devant l'Orée du Bois. Dans le jour dégagé, une large lumière grise volait avec le vent. Au-delà des arbres, on voyait un seuil d'herbe, et loin, là-bas, au fond, une colline allongée. De cette porte de lumière, les bruits venaient, que la forêt avait étouffée. Le grondement du grand charroi et le tressautement du ciel et des cris, des appels, et ça approchait à chaque pas et ça soufflait chaud, comme la bouche d'une bête qui s'avance. Tout d'un coup, on fut hors des arbres. Dessous, dans le bas-fond, c'était un gros village. Il était là, écaillé, à plat dans les prés, et ça vivait comme un tas de fourmis. De longs convois d'automobiles ronflaient sous les peupliers, au bord d'un canal mort. Une petite locomotive secouait sa queue de wagon entre des meules de paille. On la voyait tout énervée, faire tourner ses petits pieds, sauter, siffler, cracher dans les herbes. Une autre toute patiente l'attendait, garée avec un train de bois. De temps en temps, celle-là sifflait paisiblement. Un convoi de fourgons bâchés allait au pas sur une route des coteaux en face. Une troupe d'hommes marchait en rang sur une route d'en bas. Ils entraient par une rue. La musique des clairons jouait dans le village. Une syrie chantait une chanson ailée à 2 tons graves au travail, puis claire à l'âme libre. Une odeur aigre d'arbres morts et de sciure. Et puis, un louche goût sucré qui mettait de la pourriture sur la langue. Une auto légère monta vers le bois. C'était une ambulance à la Croix-Rouge pleine, à plein ressort. Elle passa, montrant les souliers des blessés allongés. Un autobus peinait dans la côte. Olivier tourna la tête pour le regarder passer. Un grand quartier de bœuf, dépouillé et sanglant, était pendu dans le jaillissement de la boue sur la plateforme d'arrière. « Tu vois mes arbres ?» dit Régotaz. « Tu les vois, gars ?» Ils étaient là, allongés contre la scierie, avec encore leurs écorces et leurs branchillons, avec des feuilles. « Et puis ça, regarde !» C'était, dans la boue, un morceau de viande gros comme le poing, avec le sang noir et rouge, et de la petite glaire blanche dans les fibres. Un morceau de gaz était encore collé sur le côté du vif. Olivier regarda la forêt. On entendait là-bas, dedans, bourdonner les moteurs de l'ambulance et de l'autobus. Il pensait à ce grand quartier de bœuf. « Peut-être bien de la viande d'homme aussi, » dit Régotaz. « Peut-être bien. Qu'est-ce que ça aurait de tant extraordinaire que ça soit tombé du brancard, d'un en lambeaux, et qui perd sa viande, dans les roulis, tu sais. » Et Régotaz roulait son grand corps de droite et de gauche, pour imiter le balancement de l'ambulance. À présent, je voudrais vous lire un passage un peu inhabituel de Giono. Giono s'intéressait évidemment à l'histoire, en témoigne la préface qu'il a donnée aux œuvres complètes de Machiavel en Pléiade, et puis surtout ce livre étonnant qui s'appelle « Le désastre de Pavie » qui est paru dans la série, vous savez, « Les grandes journées qui ont fait la France » où Emmanuel Berle avait écrit « Les derniers jours de la Troisième République » par exemple, où José Cabanis avait écrit « Le sacre de Napoléon ». Dans cette série remarquable, Giono avait accepté d'écrire un livre sur le désastre de Pavie, et ce livre ouvre par un portrait tout à fait gionesque, si je puis dire, et extraordinaire de Charles Quint. Charles Quint était un homme de beaucoup de mélancolie et de complexion noire, qui fut longtemps disgracié dans tous les sens du terme, jusqu'à la figure même de la stupidité, qui devint héros à la Balthazar Gracian, et qui, dans ses deux états, ne lutta efficacement contre l'ennui qu'en mangeant. Il était goinfre, comme on est Don Juan. Sur ce point, il ne céda jamais ni au médecin, il eut évidemment la goutte de bonheur, ni aux circonstances. Pendant la retraite d'Alger, au milieu des tempêtes et de la hurlerie des Turcs, il mordait dans des vessies de Poutargue. Il n'avait cependant ni l'esprit ni le cœur au-dessus des périls. Notre époque aide au divertissement avec une extraordinaire orthopédie de laquelle nous avons tant l'habitude d'être étayés que nous ne comprenons plus avec nos sens les anciens problèmes de l'évasion. Qui, de nos jours à 500 francs, peut se payer le cinéma et qui n'a rien est bien obligé d'être distrait par le sifflement d'abracadabran de fusée. Aux alentours de 1515, l'art de s'évader exigeait du muscle, de la grâce et cette noble vertu, mère et lumière, de tous les gentilshommes. Chez ce prince, puis chez cet empereur, ni muscle, ni grâce. Le sang de Philippe le Beau et celui de Juana n'allaient ensemble que par force, et dans ce corps qui en contenait le mélange, n'y consentait qu'au prix de pas mal d'infirmités, et d'abord, cette malformation de la mâchoire. Il faudra revenir à cette mâchoire pour connaître un incontestable courage de décision et une détermination vraiment héroïque. Quant à cette vertu chevalière, qui portant l'homme en pointe dans les événements, se réservait néanmoins assez de prise sur lui pour lui faire prêter le flanc, Charles Quint n'en était pas dépourvu. Mais gêné de ses infirmités, certaines d'ailleurs étant de cervelle, elle ne pouvait s'exercer que de biais. Il en aimait le spectacle, les défilés de troupes, les parades. Il avait chassé avec beaucoup de plaisir dans sa jeunesse. Les labours flamands étaient vastes, il y tua néanmoins un paysan par maladresse. C'est loin d'être un événement historique. Mais l'échec de ce prince n'est pas celui de son action, puisque nous le verrons maître du monde ou presque, c'est le sien propre. Il avait manié les stocks, mais jamais en tournoi, toujours sur une quintaine, et jamais en public, toujours seul, la quintaine et lui, dans des arrière-cours bien fermés, dans des caves, dans des greniers. Il n'était pas un beau spectacle, et il le savait. Sensible, il s'évanouira une fois à la messe, il est vrai que c'était en Espagne, et on parlera d'épilepsie. Cette sensibilité ne lui servira même pas à jouir de ce qu'on appelle communément les hémisphères des Pays-Bas, où les goitreux du Queyras eux-mêmes trouvent le chemin du 7e ciel et il fera des bâtards comme un comptable fait du travail à la maison. C'est pourquoi il est intéressant de chercher ce prince dans le délicat de la vie. un moment vient où il faut que l'esprit trouve son compte. Une des essences et non la moindre de la fête est sa couleur. Il ne suffit pas de rompre des lances, d'abattre des quilles, il faut le faire en pourpre, en vert, en or ou en beau ténébreux, avec des plumes, des scintillements, des devises, et se donner ainsi le loisir de toucher pour soi-même aux frontières de l'âme, ou tout au moins de la sublimation. Tout est déjà dans un faisant, et en matière d'être facilement sublimé. Il y a aussi les fromages de la montagne, enveloppés de feuilles de châtaignier, les poissons qu'on fait griller, qu'on fait bouillir dans leur cuirasse, les grives, bourrées de genièvre, à la fois fraîches comme la neige et pourries, les blanquettes, où l'ail se marie au persil, les anchois, pilés dans l'huile d'olive avec une pointe de safran, les laitances et les œufs de mulet pétris dans le poivre et le vinaigre, les daubes de sanglier, de daim et même de renard, les marinades où le lièvre noir se mélange au vin, au laurier et à l'oignon sauvage. On lui envoie des dindons de Mexico. Il en mange, en salmi, en filet, aux écrevisses, aux huîtres, en galantine, à la princesse, en capilotade. Si on communie avec Dieu sous les espèces du pain et du vin, on peut communier avec le monde, surtout le nouveau monde, avec du dindon.
Depuis quand êtes-vous à manger, madame ?
Je viens d'arriver.
Ah bon ?
D'où venez-vous ? De Théus ?
Non, de Manosque.
Ah, mon Dieu, mais c'est l'enfer là-bas. Vous n'étiez pas en ville au moins ?
Si, j'y ai passé presque un mois. Je n'oublierai jamais ce que j'ai vu. Ces bûchers qui brûlaient nuit et jour, l'odeur...
Excusez-moi, madame, je ne comprends pas. Comment êtes-vous venue jusqu'ici ? Vous avez fait une quarantaine, j'espère.
Mon Dieu merci, j'ai échappé.
Yvonne ! Faites-toi ! Écartez-vous d'elle ! Madame, votre attitude, vous êtes... C'est criminel, madame ! Elle devrait donner l'exemple et elle propage la maladie ! Vous êtes une irresponsable, madame. Des femmes comme vous, mais il faudrait les...
Il faudrait les quoi ? Hein ? Il faudrait les quoi ? Vous n'avez pas fini votre phrase, monsieur. Moi aussi, j'arrive de Manosque. J'en ai des choses à raconter. J'ai soigné des malades et elles sont mortes dans mes bras. Où allez-vous ? Ne partez pas ! N'ayez pas peur, c'est la peur qui tue !
Laissez-vous, mais laissez-moi passer !
Pour terminer, je voudrais évidemment vous lire un passage du Hussard sur le toit. Angelo allait se déshabiller dans la chambre très confortable qu'on lui avait donnée et où il y avait un lit à colonne quand on frappa à sa porte. C'était la vieille marquise. Boulotte et rougeaude aussi, malgré son âge, et semblable aux paysannes du village, elle avait les yeux de ce bleu très clair qui dénote généralement une âme tendre, mais sans pitié superflue. Elle ne venait que s'inquiéter du confortable de son hôte, mais prit place soigneusement dans un fauteuil. Angelo était enfin dans des murs qui ressemblaient à ceux de la Brenta. Il avait respiré dans les couloirs cette odeur des maisons très vastes et très anciennes. Il parla longuement à la vieille marquise, comme il l'aurait fait à sa mère, et uniquement de peuple et de liberté. Il était plus de minuit quand la vieille femme le quitta en lui souhaitant bonne nuit et en lui disant de bien dormir. Un maquignon de Remolon vint présenter au bas des terrasses 4 ou 5 chevaux parmi lesquels se trouvait une bête très fière qu'Angelo acheta avec enthousiasme. Ce cheval lui donna une joie sans égale pendant 3 jours. Il y pensait, il se voyait au galop. Chaque soir, Pauline mit une robe longue. Son petit visage que la maladie avait rendu plus aigu encore était lisse et pointu comme un fer de lance et sous la poudre des fards, légèrement bleuté. « Comment me trouves-tu » dit-elle. « Très belle. » Le matin du départ, Angelo rendit tout de suite la main au cheval qu'il avait lui-même chaque jour nourri d'avoine. Il pouvait être fier de cette allure. Il voyait venir vers lui au galop les montagnes roses, si proches, qu'il distinguait sur leurs flancs bas la montée des mélèzes et des sapins. « L'Italie est là, derrière, se disait-il. » Il était au comble du bonheur.
Je ne suis pas provençal. Je suis né en Provence, par hasard, parce que mon père et ma mère s'y sont rencontrés, s'y sont mariés. Mais j'aime ce pays. Je l'aime comme Swann aimait Odette, en se rendant compte finalement que c'était la femme qui ne lui convenait pas, qu'il n'était pas son type. Eh bien, la Provence n'est pas mon type de pays. Si j'habitais un pays que j'aime, qui me plaît, j'habiterais un pays où il pleut. Si je pouvais habiter un pays que j'aime, j'habiterais l'Écosse.
Thank you.
Les admirations littéraires de François Sureau.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. Elle a été préparée par Perrine Malinge, enregistrée par Julien Douminc et mixée par Cédric Chatelus.
La semaine prochaine, Victoire et moi, nous évoquerons pour vous l'œuvre et la mémoire d'André Breton.